Un journal présenté ce soir par Annabelle Grelier. Bonsoir Annabelle.
Bonsoir. C'est ce qu'on appelle avoir le sens des affaires. Camailleux, l'enseigne de prêt-à-porter, qui était déjà mal en point, a fini par être rachetée pour l'euro symbolique. Elle quitte le groupe Muliez et tombe désormais dans l'escarcelle de Michel Loyon, un homme d'affaires français, loin d'être un débutant dans les affaires, qui mise sur le commerce de proximité. Des CRS pour faire respecter le port du masque obligatoire à Marseille. Les incidents se multiplient dans les transports en commun. Reportage dans la cité phocéenne. En Biélorussie, le président Loukachenko promet un nouveau scrutin après une réforme constitutionnelle. Cela sera-t-il suffisant pour faire taire la contestation populaire? La pression monte pour qu'il quitte le pouvoir. En visite dans une usine d'État, il s'est fait huer ce matin par les ouvriers. Une bouchée de pain et même l'euro symbolique. L'offre était presque indécente, mais c'est celle qui a été retenue par le tribunal de commerce de Lille, Camailleux. La chaîne de vêtements a donc trouvé un repreneur ce matin. La FIB, le fonds d'investissement bordelais spécialisé dans l'immobilier commercial de l'homme d'affaires Michel Ohaillon. Son offre était soutenue par le comité social et économique et l'intersyndicale CFDT-CGT Force Ouvrière. Il faut dire que l'autre offre émanait de l'ancienne équipe dirigeante qui, après le fiasco économique, n'a pas réussi à gagner la confiance des salariés. Camailleux passe donc dans l'escarcelle de Michel Ohaillon. Ce n'est pas son premier coup. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Peu connu du grand public, Michel Ohaillon est loin d'être un néophyte dans le monde des affaires.
Oui, un homme discret, mais tout de même 144e dans le classement challenge des 500 plus grandes fortunes de France. Michel Ohaillon, âgé de 58 ans, est aujourd'hui à la tête d'un groupe qui pèse 2 milliards d'euros et dont le nom symbolise ses premiers pas. C'est en effet à Bordeaux, la ville où il a grandi, qu'il a fait ses débuts dans le commerce. À 22 ans, il ouvre une première boutique de vêtements sous la franchise Daniel Echter et il ne s'arrête pas en si bon chemin, comprenant rapidement l'intérêt d'investir dans des murs et de solliciter ensuite des enseignes leur vantant l'intérêt de tel ou tel emplacement. Ces modèles, des autodidactes comme lui qui ont bâti des empires, Steve Jobs, Donald Trump, il raconte avoir dévoré leur biographie tentant de comprendre la clé de leur succès. Année après année, Michel Ohaillon diversifie ses activités, hôtellerie de luxe, il fait du Grand Hôtel de Bordeaux un palace 5 étoiles prisé des stars, propriété dans le vin, il détient Château Trianon, un grand cru de Saint-Émilion et des investissements de plus en plus nombreux dans le secteur du commerce, lui qui pense que les magasins de quartier ont un avenir face aux géants du web. En 2018, il rachète ainsi 22 magasins Galeries Lafayette en province, puis vient à la rescousse du patron de la grande récré face à Fnac Darty, investissant 30 millions d'euros dans l'enseigne de jouets. Il a même tenté, sans succès, de racheter les magasins Toys R Us en France. Avec Camailleux, il se dote d'un réseau de plus de 500 magasins, à charge désormais pour lui de remettre cette enseigne de prêt-à-porter dans la course.
Merci Anne-Laure Jumet. Il conserve donc 511 magasins sur les 634 et 2659 salariés conserveront leur emploi sur les 3146 actuels de l'entreprise. À l'occasion du 76e anniversaire du débarquement de Provence, Emmanuel Macron participera ce soir à la cérémonie organisée à Bormes-les-Mimosas, sur la commune du fort de Brégançon, où il est en villégiature. Retour sur cette page de notre histoire, le débarquement de Provence, tournant de la Seconde Guerre mondiale le 15 août 1944, 2 mois après la Normandie, 450 000 soldats libèrent le sud de la France, menés par le général Delattre de Tassigny. Cette opération a été largement soutenue par les bataillons venus d'Afrique, 250 000 combattants au total. Il y a un an, à cette même date, le président, dans un vibrant discours à Saint-Raphaël, avait appelé les maires de France à faire vivre cette mémoire en rebaptisant les places et les rues de leur commune au nom de ces soldats africains. Un an après, Anne Fauquemberg, est-ce que cet appel a été suivi des faits?
Pas vraiment. Seule une commune est concrètement passée à l'action. Il s'agit de la ville de Bandol, dans le Var, avec une désormais place des libérateurs africains. 5 noms choisis par la municipalité. Ali Fatani, Mohamed Dahel, Jean-Édouard Séfar, Albert Banuls, François Gaillardot. Ce sont des Algériens, autrefois appelés indigènes ou des pieds noirs. Bandol, commune pionnière donc. 10 autres municipalités sont en cours de procédure ou amorcent la réflexion, comme Saint-Étienne, c'est peu. Alors officiellement, on ne rebaptise pas une rue d'un claquement de doigts. Il y a des démarches réglementaires à faire. Et puis, la crise du Covid est passée par là. Il a bon dos, le nouveau coronavirus, car en réalité, il y a une méconnaissance de ce pan de l'histoire de France. C'est pourquoi le ministère des Armées a publié un livret à destination des élus début juillet, à l'intérieur, sans biographie, auquel l'historien Julien Fargetas a contribué.
L'idée de ce livret, c'est de démontrer aux maires que potentiellement toutes les communes sont concernées, soit parce qu'elles ont sur leur sol un soldat africain qui est décédé, qui est mort au combat, qui est mort en captivité, qui est mort lors de la marche de la libération. Mais aussi une commune peut tout à fait faire le choix de donner le nom d'une rue à un compagnon de la libération, par exemple, qui est d'origine africaine. Et ce qui est nouveau, c'est que ce sont des hommages particuliers, avec des noms qui apparaissent, alors que jusqu'à maintenant, effectivement, on parlait généralement de tirailleurs, quelle que soit leur origine, mais il y avait assez peu de noms, d'individualités qui pouvaient apparaître et se démarquer.
Alors on peut citer le nom justement du capitaine Charles Nchorere qui a participé aux deux guerres mondiales ou celui du tirailleur guinéen Adiba qui s'est illustré dans la résistance dans les Vosges. L'armée qui sur ce sujet semble avoir un temps d'avance sur la société. Faut-il rappeler que certains régiments syncrétisent cette histoire ne serait-ce que dans les uniformes comme celui du 1er régiment de tirailleurs d'Épinal. Emmanuel Macron l'a bien compris, il insistera encore probablement ce soir à Bormes-les-Mimosas d'autant plus que le contexte s'est crispé ces derniers mois avec des manifestations contre le racisme et les violences policières qui ont été historiques pour la France. Manifestations fondées notamment sur une demande de reconnaissance de la pluralité des origines dans le pays.
Merci Anne Fockenberg. 130 CRS sont arrivés à Marseille cet après-midi pour aider les forces de l'ordre à faire respecter le port du masque obligatoire. Le département des Bouches-du-Rhône est passé en zone où le virus circule intensément. La ville de Marseille connaît une surfréquentation touristique de 30% cet été. L'obligation du port du masque a donc été élargie aux 7 premiers arrondissements de la ville, en plus des marchés et des transports. Dans les trams, le métro et les bus, 160 agents de la RTM, la Régie des Transports Métropolitains, veillent au respect de la mesure aux côtés des forces de l'ordre. Donc, Mathilde Vinceneux, vous avez suivi un contrôle à l'arrêt d'une ligne de bus très fréquentée du littoral marseillais.
Ils sont une dizaine d'agents de la RTM et trois policiers municipaux sur cet arrêt de bus du Vieux-Port. Ils filtrent les voyageurs pour éviter la cohue à bord et rappellent qu'il faut porter le masque.
Ah oui, je vais le mettre, bien sûr.
Gwendoline apprécie ce contrôle, mais ça ne suffit pas selon elle.
C'est assez bien, mais bon, aux autres stations de bus, il n'y en a pas. Tout le monde peut rentrer sans masque et le chauffeur ne dit rien, du coup... On leur dit des fois, mais bon, ils le font pas. Si c'est vraiment des jeunes qui disent « Non, c'est bon, qu'est-ce que tu me racontes ?» c'est un peu dur.
Et c'est vrai que les voyageurs sont nombreux à faire eux-mêmes la police, à rappeler à l'ordre les autres passagers. Jean-Louis Mariani est responsable du service de lutte contre la fraude au sein de la RTM.
On a une population très importante qui se dirige vers les plages tous les jours. Donc là, on a quand même noté une recrudescence des incidents entre voyageurs, donc beaucoup de petits problèmes verbaux, d'insultes, de menaces, qui tournent autour du non-port du masque.
Alors si les esprits s'échauffent parfois à bord, dans l'ensemble la mesure est plutôt acceptée. Les agents de la RTM et les policiers se focalisent donc désormais sur les arrêts ou sur les quais, car c'est là que les voyageurs se relâchent le plus.
Et tous les jours, pour cause de Covid, on apprend de nouvelles annulations, de rassemblements et autres fêtes. Aujourd'hui, c'est la foire de Châlons en Champagne qui a annoncé l'annulation des festivités. Et eux, ils réduisent la voilure. Ce sont les Verts qui accueilleront 500 personnes au maximum, au lieu de 3000 pour leur journée d'été, qui se tiennent donc de jeudi à samedi à Pantin, en Seine-Saint-Denis, en raison évidemment de la crise sanitaire. En Biélorussie, le président sortant Alexandre Loukachenko semble de plus en plus déstabilisé. La manifestation monstre de ses opposants hier dimanche s'est poursuivie par une altercation avec les travailleurs d'une usine qui l'ont hué ce matin. Dans le même temps, son opposante principale, Svetlana Tikhanovskaya, qui se trouve aujourd'hui en exil en Lituanie, elle s'est dit prête ce matin à assumer l'intérim du pouvoir dans le pays. Rick Biegala.
Alexandre Loukachenko ne s'est probablement pas rendu compte du risque politique qu'il prenait en s'adressant publiquement ce matin aux travailleurs de l'usine de tracteurs MZKT à Minsk. Il a certes annoncé qu'il était prêt à partager le pouvoir, à faire modifier la constitution du pays, mais a-t-il aussitôt ajouté qu'il était hors de question qu'il se soumette à de tels ajustements institutionnels sous la pression. Or la pression, il l'a très bien senti. La petite foule des travailleurs qui l'écoutaient s'est mise à scander immédiatement « Démission, démission !» lui lançant également du « menteur ».
Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема.
Visiblement un peu ébahi, le président sortant a écourté son discours. Merci, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez reprendre votre démission, a-t-il lâché pour finir. ce que la foule s'est empressée de faire. Quelques heures plus tôt, c'était son opposante, Svetlana Tikhanovskaya, en exil en Lituanie depuis mardi dernier, qui s'était exprimée dans une vidéo postée sur YouTube. Elle s'y disait prête à assumer l'intérim du pouvoir, le temps d'organiser de nouvelles élections.
Je suis prête à assumer mes responsabilités et à agir en tant que leader national pendant cette période pour que le pays retrouve son calme, qu'il retourne à son rythme habituel afin de libérer tous les prisonniers politiques et dès que possible de préparer le cadre législatif et les conditions d'organisation d'une élection présidentielle qui soit une véritable élection. Une élection juste et transparente et qui puisse être acceptée sans condition par la communauté internationale.
Qu'il le veuille ou non, Alexandre Loukachenko est donc bel et bien sous une pression énorme pour tirer sa révérence. Même la fidélité des hommes de l'appareil sécuritaire, police, milice ou armée, ne lui est plus garantie. On a vu ce week-end des unités de policiers, voire des militaires, se joindre aux manifestants anti-Loukachenko. Son seul allié, semble-t-il aujourd'hui, c'est la Russie de Vladimir Poutine.
Et on sait désormais où il se trouve. La maison royale a levé le secret. L'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos, entouré de soupçons de corruption, notamment pour ses liens avec les monarchies du Golfe, s'est installé aux Émirats Arabes Unis, à son départ donc en exil début août. Décidément, les GAFAM posent les mêmes problèmes dans tous les pays et usent des mêmes méthodes. Vont-ils pouvoir continuer à aspirer les contenus sans les payer? Dans l'Union européenne, la directive de 2019 sur les droits voisins est régulièrement contournée. En revanche, le gouvernement australien lui a décidé d'aller plus loin sur ce dossier avec une loi plus contraignante pour que les géants du web rémunèrent les médias pour les contenus. Et c'est désormais la guerre ouverte, donc avec Google. Un an et demi de discussion, aucun accord n'a été trouvé à ce jour. Résultat, Benjamin Recouvreur, Google, farouchement opposé à ce texte, en appelle donc directement aux internautes dans une lettre ouverte.
Depuis ce matin en Australie, les internautes voient apparaître un message étonnant sur leur navigateur. L'utilisation de Google est en danger. Derrière cette bulle se cache une lettre signée Google qui sort les grands moyens, une riposte inédite pour dénoncer le projet de loi du gouvernement australien. Avec ce texte, Google sera notamment obligé de rémunérer les médias qui génèrent du clic et donc des revenus publicitaires avec leurs articles ou vidéos. Actuellement, tout cet argent tombe dans la poche du géant américain. Pour la firme californienne, cette loi est injuste car elle favoriserait les grands groupes de presse contre des sites indépendants, plus petits. Elle est aussi dangereuse pour les utilisateurs et menacerait même la gratuité de ses services. De son côté, l'Australie dénonce une lettre pleine de désinformation et défend son texte comme un moyen de venir en aide aux médias, très éprouvés par la crise. Des centaines de journalistes ont été licenciés dans le pays ces derniers mois et des dizaines de journaux ont dû fermer. Avant l'Australie, d'autres pays ont essayé de contraindre les géants du web à rémunérer les éditeurs de presse. C'est le cas dans l'Union européenne qui a adopté une directive en ce sens en 2019. Mais souvent, comme en France, Google trouve le moyen de contourner la loi. Et vu le contexte, cette initiative très forte des Australiens est scrutée de très près un peu partout dans le monde.
Nouvelle alerte des ONG à la frontière franco-italienne. Depuis la fermeture du centre d'accueil de la Croix-Rouge de Vintimille, les migrants sont livrés à eux-mêmes dans les rues de la ville. Un collectif d'associations humanitaires réclame l'ouverture d'un centre de transit pour migrants. Écoutez Carla Melki de Médecins du Monde, jointe par Nadine Epstein.
On a des personnes qui arrivent à la frontière franco-italienne, par la route des Balkans ou par la Méditerranée, et qu'aujourd'hui se retrouvent sans possibilité d'hébergement, sans accès à la santé, sans aide alimentaire. Aujourd'hui, nous, notre estimation, hein, on est sur place 2 à 3 fois par semaine, c'est du 200 personnes qui vivent dans les rues. À chaque fois que nous faisons une clinique mobile, on a entre 15 et 20 consultations, donc il n'y a aucun accès à la santé non plus. Du coup, on a une aggravation des conditions sanitaires et on a entre 80 et 130 refoulements de la police française vers l'Italie quotidiennement. Vu qu'il y a cette fermeture des frontières intérieures européennes en place, en fait, donc il y a tout un processus de contournement de la frontière qui fait que les personnes se mettent en danger en prenant des chemins détournés ou aussi en se faisant arrêter dans le train. Donc il y a plusieurs manières de passer cette frontière-là. La situation est extrêmement inquiétante au niveau de Vintimille, puisque c'est là où il y a des personnes qui sont en errance, en transit, bloquées et qui n'ont aucune solution d'hébergement ou d'accès à de l'alimentation ou de la santé. Aujourd'hui, on a des patrouilles mixtes qui se sont mises en place. On on a un renforcement des contrôles policiers au niveau de la frontière franco-italienne, mais pour autant, de l'autre côté, de chacune des deux côtés de la frontière, on n'a aucun système d'accueil. Nous, ce qui nous inquiète vraiment aujourd'hui, c'est les conditions de vie de ces personnes-là, qui sont toutes à la rue. Voilà, on a plus de 200 personnes à la rue tous les soirs, dans des conditions indignes.
Un ciel variable ce soir, des nuages demain avec des températures de 21 à 22 degrés sur la pointe Bretagne et les côtes de la Manche et jusqu'à 30-32 degrés dans le Var et en Corse.